les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, surtout d'ailleurs à vous toutes en ce 8 mars 2017. Je voudrais non pas souhaiter bonne fête ou bon anniversaire ou je ne sais quoi aux femmes de la Terre, mais je voudrais saluer encore une fois toutes celles qui œuvrent et qui travaillent pour le droit des femmes. Et je voudrais aussi saluer toutes celles que la vie n'a pas forcément gâtées et qui travaillent d'arrache-pied pour se sortir la tête hors de l'eau, même si parfois, eh bien, il y a encore des gens qui continuent à tout faire pour leur enfoncer cette tête en dessous de l'eau. Alors aujourd'hui, bien sûr, il sera question de cette journée internationale des femmes, mais aussi nous aurons un entretien avec Yvon Provencher, un agent de développement et de communication du RAM. Il y aura également un entretien avec Alice Charras, directrice générale de l'organisme Raccord en santé mentale. Il sera question de la commission de la santé mentale du Canada qui fait miroiter les avantages économiques des investissements dans ce secteur. Alors, en cette journée internationale des femmes, Action des femmes handicapées, la FHM, salue la force, le courage et la persévérance de toutes les femmes qui travaillent pour réaliser une égalité sans limite. L'égalité sans limite, le thème de la Journée internationale des femmes cette année, a pour nous, femmes en situation de handicap, une résonance particulière. Ainsi, ce n'est pas nos caractéristiques personnelles qui nous imposent des limites, mais bien les obstacles présents dans l'environnement. Ces obstacles prennent pour nous la forme de la violence sous toutes ses formes, de la pauvreté et de l'exclusion. Pourtant, il s'agirait que les autorités prennent en compte les approches inclusives et intersectionnelles, l'accessibilité universelle et les droits garantis dans nos chartes des droits et libertés, dans les règlements, les lois et les politiques et les plans d'action gouvernementaux pour que la situation change. Par exemple, l'automne dernier, le gouvernement québécois dévoilait sa stratégie pour prévenir et contrer la violence sexuelle. Cette stratégie gouvernementale, encore une fois, ne traite pas les besoins des femmes en situation de handicap de façon transversale, n'applique pas l'accessibilité universelle dans toutes les mesures et toutes les étapes, et par conséquent, ignore nos droits, et ce malgré nos recommandations faites lors des consultations. Par contre, nous saluons l'initiative du gouvernement canadien pour l'amorce de ses travaux pour l'adoption d'une loi sur l'accessibilité et souhaitons que cette loi soit véritablement efficace, entre autres en imposant des obligations en matière d'accessibilité et d'inclusion. Nous réclamons que le Québec se dote également d'une loi efficace sur l'accessibilité et l'inclusion qui remplacera adéquatement l'actuelle loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. En ce 8 mars 2017, nous réclamons donc une égalité sans limite. Pour nous, celle-ci commence par l'autonomie, la sécurité, un revenu décent, la capacité de se déplacer, l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'information, aux programmes et aux services. Action des femmes handicapées, AFHM, M pour Montréal, est une organisation autonome à but non lucratif par et pour les femmes. Dans un cadre d'une analyse intersectionnelle, AFHM travaille à améliorer les conditions de vie de ces femmes et de leurs familles, à développer des projets et à favoriser les initiatives communautaires, gouvernementales et individuelles, encourageant ainsi l'autonomie, le développement personnel ainsi que la pleine participation libre et entière à la vie sociale, culturelle, politique et économique de ces femmes. Bien sûr, c'est un papier qui nous arrive de l'Action des femmes handicapées de Montréal. Renseignements et écriture auprès de Florence Pardot. Nous y revenons sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois, mais c'est un sujet important. Vous savez qu'il y a eu consultation récemment, une consultation pour au sujet de la sécurité routière. Et Dieu sait si les personnes handicapées ou les personnes vulnérables sont souvent en première ligne en ce qui concerne l'insécurité, devrais-je dire, routière. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Yvon Provencher, agent de développement et de communication communication au RAM, c'est-à-dire le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Monsieur Provencher.
Bonjour, Madame.
Alors, Monsieur Provencher, on rappelle que vous avez rédigé, peut-être pas vous, mais en tout cas une équipe, votre équipe, un mémoire pour cette consultation sur la sécurité routière. Et il faudrait peut-être d'abord rappeler que vous n'avez pas été retenu pour y aller.
Effectivement, juste rappeler que la démarche comportait une partie qui était des consultations publiques. Donc, les gens pouvaient s'inscrire et aller intervenir sur place sur des thèmes. Donc, nous, on s'était inscrits parce qu'on avait des thèmes qu'on voulait porter lors de cette consultation-là, mais malheureusement, on n'a pas été retenus. Mais on avait aussi décidé de rédiger le mémoire. Donc, on aurait eu deux participations à la consultation, le mémoire et lors des audiences publiques, mais on n'a malheureusement pas été retenu pour les audiences. Donc,
rassurez-moi quand même, ce mémoire ne sera pas inutile.
En fait, on espère que non. Je vous dirais que ce qu'on voulait dire publiquement, c'est qu'on voulait parler, entre autres, de la question de l'aménagement de rues partagées. On voulait aussi parler de la cohabitation avec les cyclistes. Et on voulait également parler de la question des véhicules électriques. Mais ça sera peut-être partie remise. On y reviendra probablement à un moment donné. Le mémoire sur le virage à droite au feu rouge, en fait, c'est pour demander de maintenir l'interdiction du virage à droite au feu rouge à Montréal, sur l'île. Pas seulement dans la ville, mais sur l'île de Montréal. Donc, on est à nouveau intervenu parce que pour nous, c'est un enjeu majeur au niveau de... Vous parliez tout à l'heure de l'insécurité. C'est sûr que de permettre le virage à droite au feu rouge à Montréal, on ne fait qu'augmenter l'insécurité. Et je vous dirais aussi que c'est d'autant plus incompatible avec les orientations que la Ville a prises par rapport à la question de la vision zéro. On se rappelle que la vision zéro, son but, c'est d'éviter le plus possible les accidents graves. Si on permet le VDFR, on est en droite contradiction avec cet esprit-là. Donc, on voulait rappeler ça également. On raconte en 2017 que le piéton est au cœur des aménagements. Il ne faut pas permettre des pratiques qui augmente l'insécurité des déplacements.
Je voudrais quand même juste rappeler que le VDFR, c'est vraiment l'acronyme pour parler du virage à droite au feu rouge.
Exact.
C'est parce que nous avons l'habitude de dire VDFR, mais je pensais à nos auditeurs. Permettez-moi, monsieur Provencher, de me faire un petit peu l'avocat du diable, même si je vais vraiment pas être très, très convaincante, parce que je suis convaincue du bien fondé de tout cela. Mais il y a des villes dans lesquelles le virage à droite fonctionne, entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'à Montréal, ça ne fonctionnerait pas?
Alors, voilà. Il faut voir ce qu'on veut dire par fonctionne.
Voilà exactement. Oui, c'est ça. Exactement.
On commence à avoir des données, parce que ça fait maintenant... 14 ans presque, là, qu'au Québec, c'est permis. Et aux États-Unis, c'est permis depuis beaucoup plus longtemps que ça. On commence à avoir des données sur l'expérience au Québec. On sait que le VDFR a produit 7 décès.
OK. En combien de temps, ça, M. Provencher?
En fait, en 14 ans, là, depuis le fait que le VDFR est permis au Québec, juste signaler en passant que les directeurs de la santé publique à l'époque, là, au début des années 2000, avaient dit, si vous permettez ça, on anticipe à peu près un décès aux 2 ans. Malheureusement, ils avaient
raison. C'est ce qui est arrivé.
C'est exactement ça qui s'est passé.
Et c'est 7 de trop, ça, c'est clair.
C'est clair. Et ça a résulté à 33 blessés graves. Quand on dit blessé grave, là, ces gens-là doivent vivre avec les conséquences de
bien
ces blessures-là.
Alors,
c'est peut-être des personnes qui, tout à coup, ont des limitations fonctionnelles et qui n'en avaient pas. Donc, on commence à avoir des données. On sait aussi que, et ça, on sait qu'aux États-Unis, c'est le cas également. Juste rappeler que quand quelqu'un veut effectuer une manœuvre de tourner à droite sur un feu rouge, il doit faire un arrêt complet avant de tourner. Les 2/3 des automobilistes n'arrêtent pas avant de tourner. Et ça, c'est cette donnée-là a été confirmée également aux États-Unis. Et eux, ils ont une expérience d'à peu près 40 ans du virage. Alors, devant toutes ces données-là, on se dit, mais si on veut vraiment mettre le piéton au cœur des aménagements des villes, pourquoi on permet une pratique met leur vie en danger?
Et que dire? Vous parliez des cyclistes, mais que dire des cyclistes qui roulent à contresens? Parce que ça aussi, c'est un danger pour les personnes, par exemple, non-voyantes.
Oui.
Déjà, pour les personnes voyantes, on n'a pas forcément le réflexe de regarder d'un côté lorsqu'on sait que la circulation ne va que d'un sens. Elle est censée aller d'un sens, donc on va regarder dans le sens de la, circulation. Mais alors, en plus, quand on est non-voyant et un vélo, ça ne fait pas de bruit. Hein?
Ah, bien, la cohabitation avec les cyclistes, c'était entre autres pourquoi on voulait en parler. C'est que c'est quelque chose qui est très difficile à Montréal. Vous savez, quand on est obligé de traverser une piste cyclable parce qu'on vient de descendre d'un autobus, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. C'est pas normal qu'on ait des aménagements comme ça. Il y a les comportements des cyclistes qui doivent être ajustés, mais il y a aussi des aménagements qui peut-être doivent être repensés pour éviter ce genre de conflit-là.
En tout cas, la conclusion à tout ça, M. Provencher, et vous serez d'accord avec moi, c'est qu'encore une fois, on n'a pas pensé. On pense toujours à une catégorie de public et l'autre est complètement mise de côté. Vous êtes d'accord avec moi?
En fait, ce que je dirais, c'est qu'il faut être cohérent. Si c'est vrai qu'on met les piétons au centre des aménagements, ben il faut aller jusqu'au bout de cette approche-là. On peut pas y aller à moitié.
Non. Mais écoutez, monsieur Provencher, alors moi, j'espère que ce mémoire que j'ai lu d'ailleurs, qui est très très bien rédigé sur la mission, sur le virage, sur les chiffres troublants d'ailleurs dont vous venez de nous parler. J'espère que si vous n'avez pas pu vous faire entendre à l'occasion de cette consultation, j'espère, de toute façon, ce mémoire se retrouve sûrement sur votre site Internet, certainement.
Absolument. Il est disponible sur notre site Web.
Et j'espère qu'il le sera encore ailleurs pour que tout le monde puisse y avoir accès. Quoi.
En principe, ce qu'on nous a dit à la Société d'assurance, c'est pas ce qu'on nous a dit à nous, mais c'est ce que la Société écrivait sur son site web, c'est que les mémoires qui ont été déposées sont rendues publiques sur leur site web également.
Bon.
Et je vous dirais qu'on n'est pas les seuls à demander le maintien d'interdiction du virage à droite à Montréal. Là. On entend virage à droite sur feu rouge. Il y en a d'autres qui demandent ça aussi.
Exactement.
On n'est pas seuls.
Et puis, moralité aussi, on n'était peut-être pas obligés de faire comme nos voisins d'à côté.
Non, on n'est pas obligé, surtout que quand on commence à avoir des données qui confirment les craintes qui avaient été identifiées, ben peut-être qu'il faut... il faut certainement en tenir compte dans les décisions futures. Là.
Monsieur Provencher, je rappelle que vous êtes agent de développement et de communication au RAM. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Ça me fait plaisir.
Allez, au revoir, bonne journée. Par actualité régionale, j'en avais parlé lorsque c'était en projet. Eh bien, maintenant, c'est réalisé. La compagnie Dufour Construction rénove en ce moment la maison de répit du groupe Espoir, située à Dolbeau-Mistassini, et ce, gratuitement. Les personnes aux prises avec un handicap qui fréquentent l'établissement auront bientôt accès à des lieux mieux adaptés à leurs besoins. L'organisme aide une cinquantaine de familles chaque année. Depuis 2 ans, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, la PCHQ, soutient un organisme de la région en rénovant ses locaux. Eh bien, cette année, tout est mis en œuvre pour accueillir adéquatement les enfants et les adultes qui souffrent d'une déficience physique, d'une déficience intellectuelle ou encore d'un trouble du spectre de l'autisme dans la maison du groupe Espoir. Les travaux devraient durer 3 semaines. Entre autres, on met un contreplaqué sur les murs pour éviter les bris du gypse avec les chaises roulantes. Et après, il y aura des couvre-planchers qu'il va falloir remettre. Et puis, il y a l'ébénisterie qui fabrique des meubles. On rechange les carreaux du plafond suspendus. Et puis, l'électricité, explique l'entrepreneur Mathieu Biron de Dufour Construction. Les rénovations auraient coûté environ 40 000 $ au groupe Espoir en matériaux et en main-d'œuvre. Le don de la PCHQ est comme un cadeau pour l'organisme qui célèbre ses 30 ans cette année. Ces travaux-là, c'est très important parce que, bon, un nouveau plafond, un nouveau plancher, c'est un côté beaucoup plus sécuritaire pour la clientèle qu'on reçoit. On a divers handicaps à la maison et on va être beaucoup mieux adapté avec ces travaux-là, dit Rosanna Perron, qui est la directrice du groupe Espoir. Revenons à la Journée internationale des femmes, soulignée un petit peu partout au Québec. J'ai choisi ce papier qui nous vient de L'Avantage à Rimouski et Montjoly, écrit par Sonia Lévesque, alors que près d'une centaine de citoyennes et citoyens sont attendus à Rimouski pour participer à l'édition 2017 de la Journée internationale des femmes, qui se tient aujourd'hui sur le thème « L'égalité sans limite ». Le comité élargi du 8 mars chapeaute une fois de plus cette année une activité à Rimouski dans la foulée d'un mouvement à la grandeur du Québec coordonné par la Fédération des femmes du Québec, le comité conditions féminines de la CSN et de la FTQ et l'intersyndicale syndicale des femmes. Comme le rappelle le comité 8 mars, la journée internationale des femmes est l'occasion de prendre un moment pour souligner les différents mouvements de lutte des femmes d'hier à aujourd'hui, de faire le point sur la situation actuelle des femmes et de faire ressortir la pertinence de la poursuite d'un projet de société égalitaire. N'oublions pas que l'accès des femmes à l'égalité est sans cesse limité. N'oublions pas également que l'impact sexiste des mesures d'austérité, dont les coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes autochtones, l'absence d'équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatif, la discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes, et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l'égalité, déjà là, la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l'infini. Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le comité 8 mars de la MITIS s'associe au Carrefour de la littérature, des arts et de la culture, le CLAC, afin de présenter une exposition collective sur le thème national « L'égalité sans limite ». Et c'est le moment de retrouver Alice Charras, qui est directrice générale de l'organisme Raccor en santé mentale. Bonjour Madame Charras.
Bonjour Clotilde.
Vous allez bien Alice?
Oui, ça va bien, merci vous.
Oui, bien, merci. Alice, quoi de neuf?
Eh bien, de belles nouvelles.
De belles nouvelles.
Il y a des événements au mois de mars et au mois d'avril dont je voulais vous parler, donc en lien avec la santé mentale. Et un des événements est organisé, donc ça s'appelle « Graines d'espoir ». C'est du mercredi 8 mars, donc dès
aujourd'hui c'est
hier,
ça.
Le vernissage avait lieu.
Oui.
C'est une... donc le « Graines d'espoir », c'est une exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Montréal et qui parle un peu de donc l'expression artistique de la résilience face au suicide.
Oui.
Et plusieurs groupes touchés de près ou de loin par le suicide ont été invités à participer à une série d'ateliers artistiques, donc en créant notamment des masques. Et le Raccor y a participé car nous avions donc été invités et vraiment... j'invite les personnes à aller voir cette exposition qui est vraiment
très belle,
très bien faite, très belle.
Une série d'ateliers artistiques au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Excusez-moi, mais c'est quand même pas n'importe quoi. Ça devait être... qui donnait ça? Qui étaient les formateurs?
Mais en fait, les formateurs, ça c'est ça s'appelle Graines d'espoir.
Oui.
Ça a même lieu. Là, ça a eu lieu à Montréal, mais
oui.
Ça a eu lieu aussi à travers le Canada.
OK, d'accord. Fantastique.
Et le nom de la personne... En fait, la personne...
C'est une seule personne. Excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre dans
oui.
l'embarras. C'est parce que j'imaginais ces personnes-là créer leur masque dans le contexte, dans
oui.
le décor du musée.
Oui,
quand
c'est
même,
en fait,
c'est fantastique.
Je me souviens plus du nom de la personne qui a initié cette
oui.
activité, mais c'est plusieurs groupes
wow.
à Montréal, en fait, à la fois des Unis, des Premières Nations, même des intervenants qui travaillent dans le domaine du suicide, qui ont été invités à
wow.
participer à cette activité-là. Puis c'était dans l'objectif aussi de montrer que ça touche toute la population.
Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que le Raccor, hein, vous êtes directement concerné par cette problématique du suicide. C'est
Exactement.
Bien ça, Alice. Hein?
Oui, nous, le Raccor, donc, pour le rappeler, on est un regroupement de
voilà.
90 organismes en santé mentale à Montréal. Donc on représente plusieurs organismes, dont Suicide Action Montréal, qui est un organisme qui intervient directement en lien avec cette problématique.
Alors, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de Montréal, hein, où le fruit de ce travail créatif sera exposé dans le cadre des présentations éducatives.
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est exactement? C'est parce que c'est dans le cadre des présentations éducatives que le Musée des Beaux-Arts organise, j'imagine, régulièrement.
Oui, c'est ça.
D'accord, parfait. Alors, autre chose maintenant, du 18 au 25 mars 2017, l'événement national de lutte contre la stigmatisation en santé mentale à livre ouvert. J'ai une affiche sous les yeux. Parlez-nous de ça, Anis.
Oui, alors c'est un événement très intéressant organisé par l'AQRP, qui est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, en partenariat donc avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec et plusieurs organismes communautaires, donc à travers toutes les régions participantes à cet événement. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes, en fait, peuvent rencontrer des livres vivants qui sont en fait
des lecteurs.
Des lecteurs et des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un problème de santé mentale et dans un souci de briser un peu les stéréotypes, ça a vraiment un objectif de sensibiliser les personnes et de partager même un message d'espoir sur ce qu'est la santé mentale, puis comment on peut passer à travers, en tout cas comment on peut vivre avec un problème de santé mentale. Donc les personnes qui sont choisies, elles partagent un chapitre de leur vie et elles le partagent donc aux personnes qui vont se rendre donc dans les différentes bibliothèques publiques qui participent à cet événement.
Et ça, c'est national aussi, hein?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs villes participantes. Je peux vous les nommer. Gatineau, Montréal, Laval, à Longueuil, à Québec, Rimouski. Donc, il faut aller sur le site de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale pour voir un petit peu qui sont les régions participantes. Mais c'est une belle façon aussi de sensibiliser la population sur cette
À Montréal, est-ce que la grande bibliothèque participe? J'imagine que oui.
Oui, exactement. Bon. La bibliothèque participe. Je regarde.
Oui, d'accord. Oui, très vite, bien sûr. Mais c'est vraiment... Et les gens qui vont lire ne sont pas forcément des gens connus. Là, ce sont des gens qui sont passés par des périodes difficiles, des périodes instables, disons cela comme ça, et qui s'en sont sortis. C'est bien ça.
Oui, tout à fait.
Très, très bien.
Ça donne vraiment la voix à monsieur et madame tout le monde qui a vécu ce genre de... Enfin, qui a vécu ou qui vit cette réalité.
D'accord. Écoutez, il nous reste une petite minute. En une minute, je ne sais pas si on peut parler de la journée mondiale de la santé, dépression. Parlons-en.
Oui, alors ça aura lieu donc le 7 avril. La Journée mondiale de la santé va parler cette année de la dépression, qui est quelque chose donc dont on parle de plus en plus souvent, heureusement, et qui touche toutes les personnes, que n'importe qui peut être touché par la dépression. Oui. Donc on est bien content que le thème cette année soit la dépression. Pour la Journée mondiale de la santé.
Eh bien, Alice Charras, encore une fois, merci beaucoup pour votre beau travail à vous et à votre équipe. Et on vous souhaite de bons et de très beaux événements.
Merci, Clotilde.
Bonne journée, Alice. Au revoir.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Par actualité nationale, la Commission de la santé mentale du Canada fait miroiter les avantages économiques des investissements dans ce secteur, un argument qui n'échappera certainement pas au gouvernement fédéral. C'est un article qui nous vient de la presse canadienne où l'on nous dit que dans un rapport destiné aux décideurs des provinces et territoires, la Commission souhaite démontrer que des dépenses intelligentes en santé mentale rapportent gros. Elle cite le cas du programme d'intervention précoce en Ontario qui aurait permis d'économiser près de 25% par personne en fonds publics grâce à une réduction du nombre de visites chez le médecin et des coûts en assistance sociale et en éducation. La Commission estime que 7,5 millions de Canadiens sont aux prises avec une maladie ou un problème lié à la santé mentale, que 1,6 million de personnes affirment que leurs besoins en soins de santé mentale ne sont pas comblés et que la maladie mentale coûte chaque année plus de 50 milliards à l'économie canadienne, soit près de 1 400 $ par personne. Dans ces négociations pour déterminer les prochains transferts fédéraux en matière de santé, le gouvernement de Justin Trudeau a réduit la hausse annuelle des sommes versées par Ottawa, mais a ajouté des fonds qui doivent obligatoirement être consacrés à la santé mentale et aux soins à domicile. 6 provinces et les 3 territoires ont conclu des ententes bilatérales avec Ottawa, mais le Québec, l'Ontario, l'Alberta et le Manitoba refusent toujours cette offre fédérale. Le ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, a parlé de fédéralisme prédateur pour qualifier cette ingérence d'Ottawa dans les compétences provinciales. La semaine dernière, la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, disait s'attendre à ce que les provinces récalcitrantes subissent des pressions croissantes de citoyens, notamment des parents d'enfants, qui nécessitent des soins en santé mentale. La commission note aussi dans son rapport que les problèmes de santé mentale sont en progression constante chez les aînés. Plus de 1,8 million de personnes de plus de 60 ans avaient une maladie ou un problème associé à la santé mentale au Canada en 2016, d'après les estimations d'une étude réalisée pour la Commission. Or, ces personnes représenteraient près du quart des visites aux urgences des hôpitaux. À l'international, en Vendée, en France, une innovante maison de l'autisme à La Roche-sur-Yon, la maison autiste sans frontières est un lieu d'accueil, d'écoute des familles à La Roche-sur-Yon. Des spécialistes et des bénévoles se coordonnent pour accompagner les enfants touchés par l'autisme, et c'est une première en France. Associations spécialisées et bénévoles se regroupent pour apporter des réponses face à l'autisme. Innovante et unique, la maison autiste sans frontières 85 est un pôle de compétences qui vient d'être inauguré. Objectif, renseigner, orienter et accompagner les familles touchées par ce handicap. Avec Autistes sans frontières, une coordination d'associations de parents d'enfants autistes, deux autres associations complètent la structure. Un CESAD spécialisé, c'est un acronyme, en troubles du spectre autistique, et l'association Autisme Service à la Personne, l'ASAP. Depuis septembre 2016, on a réussi à faire travailler toutes ces personnes ensemble, se réjouit Estelle Malherbe, présidente nationale d'Autistes sans frontières, consciente de la complexité de créer un nouveau modèle pluridisciplinaire. Un travail aussi précis et intensif autour de l'accompagnement des enfants, ça n'existe nulle part ailleurs, insiste et détaille Bruno Lezeau, le chef du service de CESAD TSA. La porte de la maison autiste sans frontières 85 est ouverte à tous les parents qui se posent des questions, qui craignent détecter un trouble autistique chez leurs enfants. En rafale maintenant, l'école Espace Jeunesse organisera un 5 à 7 le 16 mars prochain pour souligner la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroulera du 12 au 18 avril 2017. L'école régionale spécialisée souhaite ainsi donner la chance à la population de s'informer sur différents organismes et services offerts dans Lanaudière. Cette vitrine donnera à tous la chance de s'ouvrir à l'inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, mais permettra surtout aux familles côtoyant quotidiennement cette réalité de découvrir ou d'en connaître davantage sur les précieuses ressources offertes dans le nord de Lanaudière, a expliqué l'enseignante à l'école Espace Jeunesse, Caroline Venn. Cela se passe, vous l'aurez peut-être compris, à Joliette. Venez prendre le thé et discuter en toute simplicité avec d'autres membres du RAM autour du projet Bref Biographie des Nôtres, des biographies remplies de défis et de succès, initiées par le RAC. Cette rencontre sera animée par Martin Morin, agent d'information et de promotion au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. C'est 3 $, ça aura lieu au centre communautaire Berthe Réaume, 5225 rue Berry, mais je ne sais pas où, j'imagine que c'est à Montréal. Bonne journée et à demain, 11h30.